Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Pèse sur Start. Mon nom est Kasi, je suis en compagnie de Christine Lemu.
Allô!
Et de Raphaël Lavoie.
Allô!
Comment ça va vous autres?
Ça va bien, c'est vendredi.
Vendredi au moment d'enregistrement, c'est gris un peu, mais le printemps s'annonce un peu quand même, il commence à arriver, il fait moins froid ces temps-ci, c'est
ouais,
un peu gris.
Ben oui.
On entend les outardes, ben... ça fait du bien.
Hey, quand même. À Québec, il fait quand même chaud aujourd'hui. C'est pas si pire, c'est un peu nuageux, mais ça se gère. Pour de vrai, ça se gère.
Il commence à se gérer, puis bientôt, on va pouvoir aller dans les parcs, jouer à la Switch dehors au lieu de jouer à l'intérieur. Tu sais, profiter du beau temps.
Ben oui.
Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du gaming, beaucoup de belles choses. Ça a été une semaine relativement positive côté gaming. On a eu un premier aperçu, ben, c'est pas un premier aperçu, on avait déjà vu Hogwarts Legacy, mais on a eu un vrai aperçu du jeu pour comprendre enfin ça va être quoi cette affaire-là, puis ça répond aussi à beaucoup de nos questionnements. On va en parler un peu plus tard avec Raphaël, mais pour commencer, Christine, elle va nous parler d'Elden Ring. Bon, là, on parle encore d'Elden Ring cette semaine, mais que voulez-vous, les amis? C'est le jeu de l'heure, tout le monde en parle, tout le monde y joue, c'est pas tout le monde qui est content d'y jouer, mais bon, comme vous savez peut-être pas, ben, comme vous savez peut-être à la maison, c'est un jeu Souls-like, donc excessivement difficile, que je n'ose pas toucher. Christine, toi, tu y as touché pas mal, tu y as joué.
Ouais.
Mais il s'est passé, il y a une autre personne cette semaine qui s'est aventurée avec dans le jeu avec tout un exploit.
Exactement. Donc, speedrunner, bien sûr, c'était inévitable qu'on parle de speedrun avec Elden Ring. Ce n'était qu'une question de temps. Donc, si terminer Elden Ring était déjà un exploit en soi, ben finir le jeu en moins de 29 minutes relève de la prouesse. 29 minutes, ça n'a pas de bon sens. Cette semaine, donc il y a un joueur du nom de Distortion 2 qui a réussi un tour de force et qui aurait complété donc le jeu en seulement 28 minutes 15 secondes. Donc pour le moment, ça serait le record si speedrun.com ouvre donc ses règlements, parce que on le rappelle, speedrun.com n'a pas encore approuvé des règlements pour les
classements.
Les classements, exactement. Mais la course de Distortion 2 pourrait être qualifiée d'une course Any Percent. Donc, ce type de course-là ne requiert pas de terminer toutes les étapes du jeu, ne requiert pas d'obtenir tous les items, requiert pas d'avancer dans l'histoire du jeu. Ça requiert vraiment juste d'atteindre la fin du jeu et d'avoir le générique le plus rapidement possible. Donc, Distortion 2 est pas à son premier essai. Il est en fait à son huitième essai officiel, parce qu'il doit en avoir plusieurs sous la manche. Mais il aurait, donc, depuis sa première course, qui était de 49 minutes 29 secondes, il a coupé près de 20 minutes et plusieurs secondes à sa course. Et il est probablement en train de travailler sur à couper encore plus, parce que depuis la patch 1.03 qui a été déployée cette semaine, ces plans se sont peut-être un petit peu corsés, parce qu'il y a plusieurs modifications qui ont été apportées au jeu, dont une arme en particulier qu'il utilisait, qui l'aidait justement à couper une grosse partie de l'aventure. Mais au moment où on parle, Distortion 2 est déjà en train de travailler là-dessus. Puis on le sait qu'il va y avoir donc d'autres speedruns qui s'en viennent. Donc, pour vous donner une idée, le jeu se termine environ en 40 heures, 107 pour les complétionnistes, et cet homme-là a réussi à le terminer en 28 minutes 15 secondes.
Oh. Toi, Christine, t'es rendue à combien d'heures dans le jeu?
OK. Je sais pas. Je dois avoir peut-être une quarantaine d'heures, puis je suis pas du tout avancée. Là. J'ai même pas tué encore le premier boss. Je suis pas bonne.
OK, mais tu te promènes un peu, là.
Oui.
Tu dois être...
Je me promène énormément. J'essaie. Mais tu sais, quand tu te promènes, là, t'es comme, oh, OK, non, attends, je peux pas avancer. Là, je vais aller ailleurs. Là, t'avances, puis là, t'es comme, oh, il y a un autre boss. OK, je vais aller ailleurs. Là, t'avances, puis là, il y a un autre boss, puis là, à un moment donné, t'es comme, tu pleures en petite boule sur la zone de départ parce que t'es comme, mais je suis pas bonne. Mais c'est ça. Fait que j'essaie de get good, j'essaie de travailler très fort à avancer le jeu, mais je ne pense pas arriver à 29 minutes 15 secondes. Ça, c'est sûr. Alors, distorsion 2.
Tu penses terminer le jeu en combien de temps, toi?
Écoute, je pense que je vais faire un peu comme Skyrim et probablement continuer à ramasser des heures et ne jamais terminer le jeu. Donc, j'en ai peut-être pour encore des centaines et des centaines de heures sur le jeu, c'est sûr et certain.
Oh, wow!
C'est un bon investissement.
Oui, c'est comme on dit, là, c'est un très bon investissement. Comme Skyrim, là, tu payes 60$ une fois puis t'en as pour des milliers d'heures. Là.
Ouais, ben là, Skyrim, c'est autre chose. Tu payes 60$ cinq fois, puis t'en as pour des milliers
d'années. Par année, c'est ça.
Ça, c'est une autre
question. Sur ton toaster.
Voilà.
Ben, Christine, merci, mais ça me donne pas le goût.
Ben, c'est correct.
Ça me donne pas le goût.
C'est tout à fait correct.
Mais il n'y a pas juste ça qui t'a intéressé cette semaine. Il y a aussi le retour de Mike Myers. Bon, dans un tout autre ordre d'idées, ça n'a pas rapport avec Elden Ring. Mais parlons de Mike Myers. Tu viens nous en parler aujourd'hui.
Écoute, un peu de douceur là, dans ce qui se passe en ce moment, dans l'actualité, le monde. On a donc besoin un peu de comédie. Et bien sûr, Mike Myers, notre roi de la comédie canadienne, revient avec une toute nouvelle série sur Netflix qui s'appelle The Pentaverat. Donc, Netflix nous a dévoilé un avant-goût de cette série de 6 épisodes qui met en vedette donc le comédien et acteur canadien Mike Myers dans un des 8 rôles. Donc, dans 8 rôles. Donc, bien sûr, on le connaît. Mike Myers est bon pour faire pas un, mais plusieurs rôles dans ses films. Donc, dans cette série, il va incarner 8 personnes. C'est Mike.
C'est peut-être un peu pousser le bouchon. J'ai certaines craintes par rapport à cette série-là.
Mais écoute, ça va être une série qui va être une série très feel-good, qui va être une série que tu vas regarder avec le cerveau fermé, éteint, parce que, je m'excuse, mais Mike Myers... À part peut-être Studio 54, c'est rare qu'on a vu Mike Myers dans des rôles très sérieux. Là. C'est ça. Mais donc la série va suivre les aventures d'un journaliste canadien qui s'appelle Ken Scarborough, qui va tenter de sauver très canadien comme nom, qui va tenter de sauver son emploi en exposant la société secrète de Pentaverat. Dans la série, il va incarner donc 8 rôles, un journaliste, un complotiste, un animateur de radio, un ancien mania des médias, un oligarque russe, un ancien directeur d'un autre média et un génie de la technologie qui a inventé un ordinateur. C'est très... très varié comme rôle pour Mike, mais bon, ça risque d'être intéressant. Donc, la série va sortir le 5 mai prochain sur Netflix. C'est une série de 6 épisodes. Ça peut être drôle comme ça peut être mauvais, mais bon, on va le savoir le 5 mai.
Mais ça fait quelque chose à regarder.
Ben, c'est ça,
ouais. Oui, oui. Penses-tu que ça va être meilleur que The Love Guru? C'est comme la grosse question.
Oh my God, je sais pas, hein? Mais tu sais... À tes souhaits, quasi.
Tes souhaits?
Je sais pas, en fait. Parce que moi, Mike, ça a toujours été... j'ai toujours aimé Mike dans ses rôles de Austin Power. Fait que... Puis, tu sais, il était drôle dans Austin, mais est-ce que c'est encore relevant aujourd'hui? Je sais pas. Là. On va le voir là, si son humour est encore d'actualité pour 2022. Mais, tu sais... Moi, j'accueille à bras ouverts des séries comiques avec Mike. C'est Mike.
Toi, le retour de Mike Myers, ça suffit. Là.
Ben oui.
T'as pas besoin d'un bon scénario. t'as pas besoin de rien d'autre que non. Mike Myers. Mais c'est correct, je pense que ça va être le cas de plusieurs personnes.
Exactement. Puis je vous invite
mais
à être...
Surtout avec les balises Netflix, surtout avec les balises Netflix, tu sais, peut-être que ça va le permettre, dans le fond, lui permettre de travailler avec, je sais pas, peut-être une optique plus grand public, tu sais, moins niché, moins foufou. Mm-hmm.
Peut-être.
T'sais, il va travailler avec des limites, veut, veut pas, ils imposent quand même leur édition un peu, j'imagine, Netflix là-dedans, fait.
Ben, après ça, pour de vrai, je pense que c'est l'un ou l'autre.
Ouais.
Soit le modèle Netflix va mettre des balises peut-être un peu plus déterminées, ou bien ça va avoir l'effet complètement contraire, ou est-ce que lorsqu'on compare, je me rappelle plus qui produisait les Austin Powers, mais c'était peut-être Paramount ou je sais pas trop. Ben, t'as peut-être plus une possibilité de prendre des risques sur Netflix?
Ben, ouais, peut-être.
Ben, peut-être, en fait, là, parce qu'ils partagent quand même l'écran avec Ken Jeong puis Keegan Michael Key, genre, fait que...
Tu vois, ça m'intéresse plus. Le fait que Kim Jeong soit là-dedans, puis Ken Jeong, puis Keegan, là, ça m'intéresse un peu plus parce que eux, je les trouve drôles.
Ouais. Ben, tu sais, au moins,
Keegan Michael Key, c'est le best, là.
Ouais.
Il a su s'entourer au moins de Ken Jeong, on s'entend, ça fait quand même un certain moment qu'il est dans le business. Keegan Michael Key aussi, mais en même temps, il vient peut-être s'entourer de figures peut-être un peu plus actuelles dans le monde de l'humour.
Ouais, plus moderne.
Comme ça,
ouais.
Plus moderne, c'est ça. En tout cas, à suivre. Moi, je suis obligé de dire que la grosse face de Mike Myers, pleine de maquillage, j'ai comme eu un doute, là, tu sais. Ben, pas une grosse face, plus qu'avec les prothèses et tout, il y a de l'air, ça me rappelle comme les rôles un peu plus tout croche qu'il y avait dans les derniers Austin Powers, dans Love Guru, que mettons un Wayne Campbell classique, là.
Fait que, ouais, c'est ça.
J'ai légèrement peur, mais on verra, hein. On verra. Puis au pire, c'est sur Netflix. Hein? Fait qu'on regarde 10 minutes puis on fait autre chose. On pleure
voilà.
Un peu
ensemble. C'est fait. C'est ça. On pleure un peu ensemble. Ben voyons.
Non, en silence.
Ah, OK.
On pleure
voilà. Fait que, en tout cas, on va le savoir le 5 mai prochain. On va le savoir.
5 mai, donc c'est quand même bientôt. Merci beaucoup, Christine.
Un plaisir.
C'est à mon tour de vous parler de quelque chose, les amis. J'ai découvert un jeu, bon, que j'attendais quand même depuis un bon moment, depuis qu'il avait été annoncé. Tunic, un petit jeu adorable qui ressemble beaucoup à un vieux Zelda, mais bon, modernisé en mode un petit peu en look isométrique. Fait penser quand même à la récente refonte là, de Link's Awakening. Le jeu Tunic qui est développé par Andrew Schultheis, mais qui est publié par Finji, donc il y a quand même un certain backing derrière. Je laisse en parler parce que c'est un des jeux indie qui était les plus attendus de l'année, avec les petits aperçus qui avaient été faits, parce que ça ressemble à un Zelda, ça n'a pas d'allure, ça ressemble à un Zelda comme il est même habillé d'une petite tunique verte, tu sais, la petite épée, le petit bouclier. Tout le monde en parlait sur le web, puis je me suis dit, ben il faut que je l'essaie. Je l'ai essayé parce que c'est un jeu de Game Pass. Puis les jeux de Game Pass, ben, tu sais, ça. Tu sais, tant qu'à avoir Game Pass, ben, essaye tout.
Ben oui.
Donc, étant une nouvelle adepte de Game Pass, à cause que je suis nouvellement propriétaire d'une Xbox Series X, ben, première chose que j'ai fait, c'est j'ai acheté Hydro Thunder, puis après ça, ben, je me suis procuré à Game Pass. Et puis, avec la Game Pass, j'ai téléchargé le petit Tunic. Donc, je voulais vous en parler parce que ne vous fiez pas à vos impressions. Ça a l'air d'un petit Zelda cute, mais j'ai lu plusieurs critiques aussi après avoir essayé le jeu parce que je me demandais si c'était juste moi qui étais poche ou si c'était généralisé comme feeling. Et le jeu a été décrit adorablement comme un Zelda Souls, un terme que je n'avais pas vraiment entendu avant. Et puis moi, vous savez, moi puis les Souls, ce n'est pas une relation d'amour. Moi, ça ne m'intéresse pas un jeu qui va me faire fâcher. Mais je voulais vous en parler parce que c'est peut-être une bonne introduction à la mécanique, pas la mécanique Souls, parce que bon, c'est pas un jeu de From Software, donc c'est sûr que ça n'a pas l'authenticité d'un jeu Souls pour vrai, mais ça a quand même un peu la difficulté Comme on comparait un peu dans le temps, quand Cuphead est sorti, on disait que Cuphead est un peu le Dark Souls de son genre. Que vous jouez en coop ou seul, c'est un jeu excessivement difficile. Eh bien, Tunic, c'est un jeu excessivement difficile, très, très, très difficile. Notamment à cause, ben, c'est à cause des boss, carrément, puis c'est des combats, dans le fond. Hein. T'as une petite, je vais vous mettre en contexte un peu comment que ça fonctionne, ce jeu-là. Tu te réveilles sur une plage, donc déjà là, bon, c'est un Zelda. T'es un petit renard. T'incarnes un petit renard tout cute avec sa petite tunique et, bon, tu dois trouver ton épée et ton bouclier, mais les paysages, bon, sont remplis d'ennemis. Donc, c'est des ennemis qui ressemblent à des ennemis, des petits ennemis de Zelda, genre des, comment qu'on les appelle, là, les chouchous, les ennemis comme ça. Mais tu as seulement une petite barre de santé, vraiment très, très, très petite barre de vie et une barre de stamina. Donc, avec ta stamina, bon, si ta stamina est très, très basse, ben, tu vas vraiment prendre plus de damage. Donc, ça, c'est vraiment difficile parce que quand tu bouges, ben, tu prends du stamina. Puis, tu n'as pas le choix d'utiliser, dans le fond, la fonction de roulade, là, comme dans les fameux Zelda, mais c'est la roulade aussi qu'on retrouve dans les jeux Souls, les stratégies où est-ce que, les jeux où est-ce qu'il faut utiliser une stratégie pour combattre un ennemi. Il ne faut pas juste varger dessus, comme dans Zelda. Donc, c'est là que le jeu se différencie beaucoup d'un Zelda. C'est chaque ennemi, même les petits ennemis que tu vas croiser, il faut utiliser de la stratégie pour les battre parce que sinon tu vas mourir carrément. Tu vas être envahi, tu vas être entouré, tu vas en avoir juste trois autour de toi. Chose qui n'est pas menaçante dans un jeu comme Zelda, mais dans Tunic, trois ennemis, ça peut absolument signer ton arrêt de mort. Puis surtout que tu commences avec aucun, tu n'as pas rien pour te défendre. À un moment donné, tu as une petite branche d'arbre pour te défendre, mais c'est pas assez, ça fait pas beaucoup de damage. Et trouver l'épée, pour vrai, ça va être très long. Ça m'a pris 2 heures avant d'obtenir l'épée, tout simplement pour me défendre. Donc, si vous aimez les jeux Souls, mais que vous aimez aussi les jeux isométriques, aussi les Zelda, mais peut-être plus les histoires de Zelda, mais avec la difficulté d'un jeu à la Souls, ça va peut-être vous intéresser. Quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est que ben, quand vous mourrez, vous recommencez à un petit feu. Ça fait penser à un autre jeu.
Oh.
Donc, tu recommences à un feu, mais tout ce que tu as fait n'est pas arrivé pour vrai. Donc, dans le fond, il y a quelque chose qui vont rester quand tu meurs. Donc, si tu as une clé, tu vas la garder. Mais tous les ennemis que tu as battus, même les boss, ils vont tous revenir. Donc, si, puis il y a très, très peu, c'est comme des points de check. C'est des checkpoints, dans le fond, c'est des points de mort, là, où est-ce que tu vas revenir en vie, mais ils sont très loin de où est-ce que tu t'es aventuré. Ils sont très, très loin. Donc, tu vas devoir recommencer absolument tout, mais opter, utiliser une totalement différente stratégie, parce que visiblement, tu avais la mauvaise stratégie si tu es mort avec un ennemi qui t'a complètement écrasé. Je me suis fait massacrer. Il a fallu que je recommence des fois, là, des sections, une dizaine de fois avant de pouvoir juste obtenir finalement, c'était un petit coffre avec de l'argent dedans, tu sais. Puis je savais même pas parce que je voyais un coffre, je me dis, il y a quelque chose. Et puis des fois, c'est une question, là, t'es juste à côté et puis tu meurs, puis tu recommences complètement au début. Faut recommencer et recommencer. J'ai pas l'air à vanter le jeu là, quand je dis ça. Ça a pas l'air très, très attirant, mais pour vrai, pour ceux qui aiment un bon défi, c'est vraiment bien fait. C'est un jeu qui a été développé, comme je disais, par une seule personne. Donc, pour vrai, on dirait qu'il y a vraiment une grosse équipe derrière ça. Puis ça a beaucoup, beaucoup de potentiel. Ça pourrait être une franchise. C'est pas un jeu indie, trop indie, là. Tu sais, c'est vraiment super fluide, les mécaniques sont bien, le combat il est solide, la prise en main est bonne, les couleurs, le design est extraordinaire, c'est vraiment adorable comme jeu. Les ennemis sont intelligents aussi, ils sont pas niaiseux, ils vont nous trouver si vous pensez, parce que tu peux être furtif aussi, parce que ça fait partie de la stratégie d'être furtif, mais ils vont quand même probablement vous trouver et vous courir après. Vous allez être parfois envahi par plusieurs monstres qui sont très difficiles à battre. Puis tu sais, tu peux manger trois, quatre coups d'attitude. C'est très, très peu de health là, dans ce jeu-là. Donc, c'est un bon défi. Mais pour ceux qui veulent explorer le jeu, mais qui veulent pas, qui veulent l'explorer peut-être plus à la façon Zelda, où est-ce que tu meurs pas, ben, tu sais, tu t'explores pour les mystères et les secrets. Il y a une option dans l'accessibilité qui s'appelle No Fail Mode, donc le mode sans échec. Donc, ce mode-là fait en sorte que vous prenez aucun dommage. Puis hier, en soirée, quand j'étais tannée, puis que je voulais vraiment obtenir la maudite clé qui était cachée en dessous d'un boss, là, qui, j'avais absolument besoin de cette clé-là, puis le boss, il me tuait en un coup. Je l'ai allumé, ce mode-là. Je l'ai allumé, puis ça l'a juste, ça l'a comme réglé tous mes problèmes. C'est vraiment fantastique. Puis tu peux le fermer tout de suite après, tu sais.
Vas-tu le laisser allumer? Telle est la question.
Oui, je vais le rallumer parce que... ben, tu sais, je vais, c'est sûr que je vais l'éteindre pour la nouvelle section que je suis en train d'explorer. Je vais l'explorer comme je peux, mais pour vrai, des fois, tu fais deux pas et puis tu meurs. Il y a des ennemis qui vont vraiment te chercher de loin. Il y en a aussi qui vont viser de loin. Il y en a donc qui vont lancer des projectiles qui vont te suivre. Et pour vrai, le jeu, l'intelligence artificielle du jeu est vraiment bien faite. Il y a rien de clunky là, dans ce jeu-là. Donc, c'est pour ça que je le suggère fortement quand même. Peu importe votre niveau, parce que vous pouvez quand même utiliser le mode d'accessibilité pour pouvoir explorer le jeu. Puis je pense que cette partie-là va quand même plaire aux fans de Zelda, là, les bons vieux Link's Awakening, Link to the Past. Ça a vraiment cette vibe-là. Il y a des donjons. Des fois, tu te bats dans le noir, carrément. Tu vois rien. Puis, t'as le mode ciblage aussi, tu peux cibler, puis tu sais, le Z-targeting, le fameux Z-targeting de Zelda, tu peux faire ça aussi. C'est vraiment un bel hommage à ce jeu-là, mais avec la mécanique un peu, on va te varloper, on va te pitcher d'un bord puis de l'autre, puis tu vas crier. J'ai failli pitcher ma manette une couple de fois. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a une passe, donc allez vous le procurer, c'est un beau petit jeu, adorable, avec la belle petite musique, puis un beau petit renard.
Très cute! Oh wow! Yes. J'ai hâte de l'essayer, ça a l'air vraiment cool.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Il y a un autre jeu que j'attends encore plus, qui m'excite encore plus, c'est Hogwarts Legacy. On va en parler en gang avec la chronique à Raph.
Yeah!
Raphaël, il s'est passé quelque chose hier, puis on a vu des choses.
Écoute, hier soir, à 17h, entre 17h et 17h15, je pense qu'on a tous eu des grosses émotions fortes, là, chacun de notre côté, à regarder la présentation de Hogwarts Legacy, un jeu qui avait déjà été annoncé, déjà présenté sommairement avec une première bande-annonce, mais c'était il y a près de 2 ans, donc en 2020, un an et demi, 2 ans. Ça fait un bon moment qu'il y avait eu la première bande-annonce et de surcroît, il n'y avait pas eu de gameplay qui avait été présenté. Donc, c'était vraiment des cinématiques, des images de synthèse. Là, hier, ce qui a été présenté, c'est vraiment... C'est le gros du jeu, là. On a expliqué le titre d'un bout à l'autre, ce qu'il allait y avoir, comment il allait être un peu découpé, les différentes options de gameplay, les différentes mécaniques. Et on a vu le jeu en action. Bon, c'est sûr qu'il faut être prudent un peu quand on parle de ce genre de présentation de gameplay-là. C'est pas impossible qu'il y ait des choses qui soient un peu embellies. Mais en toute franchise, on est tous tombés un peu sur le derrière, chacun de notre bord.
Ben oui, la conversation là, qu'on avait, c'était « Oh my God, oh my God! »
Ben, tout oui, on écrivait tout en majuscules.
Oui, oui. Écoute, notre messagerie interne s'est transformée en espèce de gros log de fans d'Harry Potter. Ben écoute, c'était de toute beauté. Mais... ce qu'il faut dire, au-delà de notre réaction personnelle, c'est que Hogwarts Legacy a semblé livrer la marchandise et répondre aux attentes quand même d'un grand nombre de joueurs. On regardait autant les commentaires du côté de la page de PES sur Start sous la présentation en direct. les gens étaient pratiquement unanimes de ce côté-là. Les gens qui l'attendaient, là, du moins, pas grand monde qui ont dit « moi, je l'attendais et j'ai été amèrement déçu par le jeu ». Donc, ça a quand même été un accueil quand même assez chaleureux de ce côté-là. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la présentation qui était diffusée lors d'un State of Play de PlayStation… Et petite parenthèse, le jeu ne sort pas juste sur PlayStation. Plusieurs personnes qui ont pensé que vu que c'était présenté par Sony, Hogwarts Legacy ne sortait que sur PS4, PS5. Eh bien, ça sort aussi sur Xbox One, Xbox Series XS, sur PC. Et le site indique que ça va sortir aussi sur Nintendo Switch. Ce qu'on a vu hier comme image, là, c'était quand même des graphismes de qualité. Ça avait l'air fluide, ça avait l'air complet, ça avait l'air gros. J'ai aucune idée comment est-ce qu'ils vont faire rentrer ça sur la Switch.
Ben oui.
Il y a eu une historique là, de logiciel cloud, là, en fait, que vous achetez une cassette pour la Switch et que ça va chercher le jeu tout simplement sur le nuage en version web. Différents titres de Bethesda, notamment, là, sur la Switch qui vont chercher cette mécanique-là. Là, par contre, supposément que sur le mock-up de la pochette, c'est ce que j'ai lu il y a quelques minutes, là, il n'y avait pas d'indication comme quoi c'était cloud-based sur la Switch. Donc, c'est peut-être natif, quoique c'est une pochette préliminaire, là, mais en tout cas, fermons la parenthèse, là, mais ça va sortir supposément sur Switch aussi, et on se pose toute la question comment ça va rouler sur de la Switch, mais en tout cas, à suivre de ce côté-là. Donc, c'est ça. Ça a été présenté hier et, cette présentation-là, comme je disais, regardez-la si vous n'avez pas eu l'occasion et que le jeu vous intéresse, une quinzaine de minutes. Sinon, ça va vraiment montrer, bon, à peu près tout ce qu'il y a dans le jeu. Vous êtes un élève qui arrive à Poudlard. Vous avez l'air de sauter une couple d'années parce que vous arrivez en cinquième année de Poudlard sur les sept années. Donc, vous êtes comme une espèce d'ado, jeune adulte. Donc, vous arrivez, vous créez votre personnage, vous choisissez, différentes options pour le personnage. À ce moment-là, ça va vous envoyer dans une des quatre maisons de Poudlard et ensuite, l'aventure commence.
Attends, tu choisis pas ta maison?
De ce que j'ai compris, non. De ce que j'ai compris,
c'est Sorting Hat.
Je crois que c'est un peu aléatoire selon. Je ne sais pas à quel point, ils n'ont pas dit à quel point tu pouvais choisir un grand nombre de compétences. J'espère que ça ne va pas juste se baser sur il y a les yeux noirs puis les cheveux verts, fait que ça va être un Slytherin. J'espère que ça va être un. Bon, qu'on va pouvoir choisir des traits de personnalité, des trucs du genre. Ça, ils sont peut-être moins avancés là-dessus. Mais ce qui est cool, c'est que une fois que tu t'es lancé dans le jeu, c'est un monde ouvert. Donc, tu te ramasses à Poudlard. Évidemment, c'est une école, donc un peu à la Bully à l'époque. Les plus vieux qui ont joué à Bully vont comprendre le parallèle. Tu peux suivre des cours, tu peux explorer Poudlard, évidemment. Si vous avez vu les films, lu les livres, vous savez que Poudlard, c'est un grand château avec ben des secrets, des donjons, puis toute la patente. Donc, vous pouvez explorer tout ça. Il y a l'air d'avoir quand même une bonne portion d'exploration à faire de ce côté-là, pièces secrètes à trouver et compagnie. Et dans les cours, bon, vous allez apprendre à fabriquer des potions, à lancer des sorts, il va y avoir des clubs de duel, toute la patente, vous allez pouvoir apprendre à conduire un balai, vous pouvez sauter sur un hippogriffe, visiblement, explorer le ciel comme ça. Des cours de botanique, donc vous pouvez après ça vous servir de plantes pour les potions, mais aussi en combat. Il y avait une séquence où est-ce que tu pouvais sortir, je me rappelle plus du nom, mais il y a une plante là dans le lore d'Harry Potter, où est-ce que quand elle sort de son pot, elle crie.
Elle crie, oui.
Ouais.
Je ne me rappelle plus du nom, mais il y avait une séquence dans la présentation où est-ce qu'en combat, le personnage sortait la plante et ça faisait comme une espèce de stun. Mandragore, c'est ça.
Mandragore,
merci, au public. Ça venait comme étourdir les ennemis, en quelque sorte.
Ah, c'est donc, bon.
Beaucoup de possibilités de ce côté-là. Ça va être possible de fabriquer ton propre équipement magique ou en trouver ici et là. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça va sortir des murs de Poudlard. Donc, bon, c'est Hogwarts Legacy, ça se passe à Hogwarts, à Poudlard. Mais autour de ça, ben, il y a le village de Bréolard. Il y a aussi la forêt interdite. Donc, tout ça va être explorable. Au-delà de ça, ben, c'est sûr qu'il va y avoir une histoire principale où est-ce que, bon, là, c'est encore une histoire de force du mal qui rôde autour de Poudlard, qu'il va falloir élucider de ce côté-là. Il va y avoir aussi, bon, des quêtes secondaires. Et on va pouvoir devenir, je crois, un sorcier un peu obscur. Il y a un moment dans la présentation où est-ce qu'on voit le personnage principal, le personnage que vous allez créer, lancer un Avada Kedavra avec un beau jet vert, lumière qui sort de la baguette. Donc, bref, c'est un jeu d'aventure, d'action, mais quand même un jeu de rôle aussi, parce que ça risque, de ce qu'on a vu, de vous amener quand même sur différents chemins selon vos choix, selon les capacités. Il y a un arbre de compétences aussi, comme dans tout bon RPG. Donc, bref, ça a l'air complet et... ça a l'air surtout, là, moi, quand la présentation s'est terminée, je me suis vraiment dit que c'était le jeu que tous les fans d'Harry Potter attendaient. Tu sais, le jeu qui, à travers les années, il y a eu différentes adaptations vidéoludiques de l'univers d'Harry Potter. Il y a eu des trucs comme, bon, les jeux à l'époque, c'était-tu Warner Bros., je pense, qui faisait des jeux qui retraçaient l'histoire des films, mais tu sais, qui étaient très, très linéaires. Tu avais envie d'explorer Poudlard, c'était pas possible. C'était hyper linéaire.
Puis de Lego aussi, qui était quand même le fun, mais ça, oui. C'est basé sur les livres puis les films.
C'est ça aussi. Puis tu sais, ça reste les mécaniques Lego où est-ce que c'est essentiellement. Ramasser des pièces, ramasser des boulons, tu passes au travers de l'histoire, mais c'est beaucoup un jeu de, bon, tu ramasses des trucs, c'est pas pour tout le monde non plus, c'est un regard plus familial aussi sur la franchise, ben, qui est une franchise familiale, mais qui s'en vient quand même dark vers la fin, puis bon, ça, Lego passait peut-être un peu outre tout ça. Donc, c'est vraiment le jeu... Tu sais, c'est le jeu qu'on voulait, je pense, en tant que fan d'Harry Potter. Tu sais, on cherchait quoi? On cherchait un monde ouvert, on cherchait de l'exploration, on cherchait...
De la magie,
c'est ça exactement. Tu sais, plus jeune, on a tous déjà rêvé d'assister à des cours de Poudlard.
Ouais.
Apprendre à faire des potions, puis se promener dans le château. Puis aller à la chambre, la salle commune, pardon, de la maison en fin de soirée, puis voir comment c'était fait. Puis voir aussi au-delà, de Gryffondor, tu sais. Il y a beaucoup de temps qui est passé dans les films avec Gryffondor, mais comment ça se passe dans la salle commune, mettons, de Hufflepuff ou de Serpentard ou de Serpent, whatever. Donc, ça ouvre vraiment le monde des possibles. Puis, écoute, il y a différentes questions qui restent en suspens, notamment, bon, avec quand même un éventail de plateformes aussi large que de la Switch à la PS5, la Series X et les PC de dernière génération. Ben c'est large là, l'éventail, puis est-ce que sur le plan technique, ça va être assez... est-ce qu'on va se concentrer plus à avoir de quoi qui fonctionne partout? Est-ce qu'on va avoir deux versions? Est-ce qu'on va avoir un autre débandade comme Cyberpunk? Bon, ça, c'est sûr qu'il y a un point d'interrogation de ce côté-là. Puis c'est sûr que plus que tu fais de promesses, hier, il y en a eu beaucoup en 15 minutes.
Il y en a
minutes.
Eu beaucoup.
Plus qu'il y a un risque de les briser, au final.
Ouais. Mais là, il ne faut pas s'attendre à croiser Professeur Snape et Voldemort, là, parce qu'on est dans les années 1800.
Oui, c'est ça, exactement. Ça avait été mentionné par le passé, mais quand même, si vous n'étiez pas au courant, ça, c'est important de le mentionner. Vous êtes, c'est ça, dans les années 1800, fin 1800, si ma mémoire est bonne. Donc, vous pouvez croiser quand même ben, les fantômes de Poudlard qui ben, sont encore là, Nix en tête et compagnie. Ça, vous pouvez les croiser. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil à l'histoire principale de la franchise. Mais en même temps, je suis obligé de dire que le monde des sorciers n'a pas bien bougé visiblement depuis la fin des années 1800. Donc oui, ça se passe bon, 200 ans avant L'histoire d'Harry Potter, ben, c'est plus une centaine d'années à peu près, c'était fin 90, début 2000. Mais vous n'aurez pas nécessairement l'impression d'être dans un jeu médiéval. Là. Ça reste l'univers d'Harry Potter, c'est là, tu sais. Il va vous manquer peut-être, je sais pas, quelques petits gadgets plus récents du monde des sorciers, mais quand même, la seule chose, c'est que vous ne croiserez pas, comme t'as dit, professeur Rogue, McGonagall ou Ron dans un coin en train de manger des chocogrenouilles. Là, ça va être, bon, plus les origines de tout ça. Mais en même temps, je crois que ça peut être intéressant. Puis c'est peut-être la seule avenue pour aller chercher un jeu qui vous permet d'être le héros de la trame scénaristique et de créer votre propre personnage sans briser un peu. Quoi que ça aurait pu être intéressant, là, tu sais, t'arrives dans l'histoire d'Harry Potter puis tu chamboules tout parce que finalement, c'est toi qui tue Voldemort. Mais bref, ça va donner quand même un autre point de vue sur la franchise. Donc, ça risque d'être très intéressant de ce côté-là.
J'ai vraiment hâte. Et c'est quand qu'on va pouvoir jouer à ça, Raph?
La fenêtre de sortie qui a été annoncée hier, c'est le temps des fêtes 2022. C'est un jeu qui était prévu pour 2021 au départ, mais qui avait été en début d'année l'année passée, repoussé d'un an. Là, il y avait eu différents échos, des rumeurs qui disaient « Ah, finalement, ça va être repoussé », d'autres rumeurs qui disaient « Ah, ça va sortir plus tôt », « Ah, peut-être septembre 2022 », »« Ah, peut-être avant ça ». Là, on parle d'hiver, 2022, la fin de l'année. Bon, on invite à la prudence, comme d'habitude, hein, parce que ce ne serait pas le premier jeu à être repoussé. Et justement, le titre, il y a eu comme beaucoup de rumeurs qui tiraient d'un bord et de l'autre au niveau de la date de sortie pour Hogwarts Legacy. Puis, il y a rarement de fumée sans feu. Donc, bon, on nous dit la fin de l'année 2022. Est-ce que c'est une date vraiment solide? Ça reste à voir. Mais bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses qui ont été faites dans cette bande-annonce-là. C'est très ambitieux. Donc, je suis pas un gros fan des reports, mais après ça, si c'est nécessaire pour être capable de vraiment livrer de la marchandise, ben ce sera nécessaire au final. Mais en tout cas, c'est à suivre de ce côté-là. Il reste à avoir une date plus solide. Mais ça sent bien. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Excellent, merci beaucoup Raph. Hogwarts Legacy, on surveille ça. On espère pouvoir y jouer cet hiver. Hey, merci beaucoup Christine, merci beaucoup Raph.
Plaisir.
Merci à toi.
Ben oui, que de belles nouvelles aujourd'hui, des belles affaires dans le monde du gaming. J'ai particulièrement hâte à propos de Hogwarts Legacy, mais malheureusement, il va falloir patienter encore un peu. C'est triste. Vous autres, est-ce que vous allez l'essayer, Tunic?
Oh mon... Tunic? Je sais pas. Peut-être si j'ai besoin de plus de douceur qu'Elden Ring. Peut-être.
Ben, c'est sur la Game Pass. Donc, rendu là, un essai ne coûte pas grand-chose outre votre abonnement mensuel. Donc, je vais peut-être bien l'essayer. Mais j'avoue que tu me refroidis un peu là, avec l'idée que c'est très, très difficile. On dirait que j'ai comme de la misère à imaginer un jeu fait comme ça, un peu isométrique, avec la perspective un peu, peu rétro, vu de dessus, très, très difficile, avec des combats très ardus. On dirait que j'ai comme de la misère à imaginer, fait que je suis curieux. Mais je vais le laisser 10 minutes, ça va être ça.
Oui, c'est ça, une dizaine de minutes. Dans le fond, c'est sur Game Pass, vous pouvez aller checker ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, chers auditeurs. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes où est-ce qu'il y a des podcasts. Faites juste chercher Paix sur Start. Sinon, vous pouvez nous suivre sur paixsurstart.com et sur les médias sociaux. On est sur Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Donc, c'est là que vous pouvez lire nos articles. On écrit des critiques, mais aussi de l'actualité. Donc, pour avoir toutes vos nouvelles geek, gaming, cinéma, télé, c'est sur paixsurstack.com. Puis d'ailleurs, allez lire un texte que j'ai écrit sur les jeux difficiles cette semaine qui s'appelle « Je ne vais jamais get good ». Je ne vais jamais get good. Donc, allez checker ça. C'est sur notre site web paixsurstack.com. Ça fait un drôle d'article, mais j'étais contente de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi, qui ne vont jamais get good, eux autres non plus.
Et c'est correct. C'est correct, les amis. Ayez pas honte. C'est correct d'activer les modes comme dans Tunic, là, de...
Ben, c'est correct. C'est correct d'avoir un petit peu d'âme.
Voilà.
Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Paix sur Start.
Bye.
Bye bye.
Bye bye.